pour se poser la question de la manière de renforcer un écosystème régional, évidemment en tenant compte du contexte qu'on traverse actuellement sur le plan sanitaire. Alors, cette table ronde est organisée par Haute Fidélité, la Fédélima, le SMA et la FAMDT. Et va évidemment se poser la question sur les différentes étapes du projet musical, la création scénique, la production d'un enregistrement, la diffusion et l'export, qui implique une multitude d'acteurs que sont les artistes, les labels, les éditeurs, les managers, les attachés de presse, les salles, les festivals, les réseaux, les médias, et probablement qu'on en oublie en passant. Donc cet écosystème qui est interdépendant, mais en silo, qui est à la fois fragile, mais néanmoins témoigne de beaucoup d'agilité en mettant sur pied de nouvelles initiatives, en voyant évoluer les interactions, en voyant naître aussi de nouvelles formes de coopération, d'accompagnement, de soutien, et pourquoi pas peut-être vers plus de solidarité. Donc cet écosystème est mis à mal, et en tout cas amené à beaucoup se transformer en cette période. Le bureau export, par exemple, et Wallonie-Bruxelles Musique ont expliqué qu'ils sont obligés de revoir leur stratégie parce que tout est bouleversé. On sait qu'on verra, par exemple, beaucoup moins de projets américains dans les deux années à venir dans les salles. Et donc, ça renverse un petit peu la vapeur, ça transforme les règles du jeu. Dans ce secteur de la musique qui est voilà, soumis à pas mal de complexité. Et face à ce contexte qui est le nôtre, on va déjà entamer des méthodes, des possibilités, des exemples de pratiques en région qui tentent de repenser justement l'échiquier, la manière dont chacun agit dans les territoires, avec par exemple donc deux premiers interlocuteurs, mais peut-être que d'abord je vais présenter toutes les personnes autour de la table. Donc on a Vera à ma droite qui représente la Fédélima. Salut Vera. Alex, qui donc est directeur de la biscuiterie et de la couveuse, qui est un label indépendant. On a Julien, qui est également donc directeur de Pégase Music, qui est une maison de label pour le coup. Nicolas, qui est consultant chez L'Autre Idée, qui est une asso de développement culturel qui passe par plein de choses. Et puis, numériquement, on a Éléonore Dubois, qui est chargée de mission au RIM, donc c'est un réseau régional des indépendants de la musique en Nouvelle-Aquitaine. Et Jacques Sichler, qui est chargé de développement artistique à l'Antipode à Rennes. Donc, Éléonore et Jacques, pour commencer, est-ce que, d'abord Éléonore peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se fait en Nouvelle-Aquitaine, de manière justement à apporter un soutien aux labels indépendants et structurants, si vous m'entendez bien?
Oui, je pense que c'est à moi.
Oui.
Bonjour. Bonjour à toutes, à tous. Donc, je suis chargée de mission au RIM sur la musique enregistrée de numérique. Et effectivement, l'émergence et l'écosystème sont deux valeurs fortes qu'on porte dans ce réseau qui est né de la fusion des anciens réseaux en 2017. Donc aujourd'hui, on a plus de 170 adhérents qui sont des salles, des festivals, des radios, des écoles de musique et des labels. Et en ce qui concerne la musique enregistrée, ça fait plus de 10 ans que les professionnels se sont structurés pour lutter contre la concentration, la crise du disque qui est devenue durable. Et tout est parti, on va dire, politiquement, dans l'organisation du collectif en 2006 des concertations musique actuelle, qui ont donné lieu à la mise en place d'un dispositif d'aide à la production et à l'édition phonographique. Donc le Conseil régional a mis cette aide en place pour favoriser la diversité musicale, pour aider des projets fragiles, enfin risqués, on va dire, et des structures qui étaient fragilisées par une concentration grandissante de l'offre musicale, avec des majors qui prenaient de plus en plus de place. C'était aussi l'idée de travailler la proximité, le maillage territorial et de... Oula, j'ai perdu mon fil. C'était donc l'idée de défendre le savoir-faire des producteurs indépendant et de le maintenir en région, enfin en tout cas de le préserver en région, éviter aussi que ça se concentre en termes géographiques à Paris notamment. Donc, il y a eu ce dispositif d'aide phonographique qui a été mis en place par le conseil régional, puis la fédération régionale des labels indépendants qui s'est créée à ce moment-là pour défendre des structures commerciales qui n'étaient pas associatives mais qui portaient les mêmes valeurs, qui donc accompagnaient l'émergence, et l'idée déjà c'était de aussi valoriser leur place dans la filière qu'on n'appelait pas écosystème, qu'on appelle écosystème aujourd'hui, mais avant on parlait essentiellement de filière. Voilà, pour valoriser le fait que sans actualité discographique, enfin, le disque n'était pas mort, il n'est pas toujours pas mort, et sans actualité discographique, pas de chronique, pas de programmation, pas de tournée, et voilà, donc pour valoriser un peu cette chaîne de valeur que composaient tous les professionnels et dont les labels faisaient partie. Mais ça restait un métier assez peu connu. Voilà, et s'en est suivi la mise en place en 2012 d'un réseau de distribution de disques en circuit court, avec l'aide de la tête de réseau des libraires indépendants d'Aquitaine à l'époque. Donc, toujours à l'heure actuelle, il y a une trentaine de points de vente alternatifs au-delà des disquaires et au-delà de la région aussi, qui défendent, qui diffusent les productions régionales. Il y a eu aussi en 2014 la Fédération nationale des labels indépendants qui a été créée, qui a aussi favorisé le plaidoyer aussi et la place de la réalité des labels dans les discussions institutionnelles. Et ensuite, en 2015, s'est mis en place une aide de la DGMIC, donc la Délégation générale des médias et industrie culturelle. Et c'était sur l'aide à l'innovation, donc un peu difficile d'accès pour les petits indépendants, demandant un fort volume d'investissement. Et je vais vous montrer un schéma après, mais dans l'articulation des dispositifs à destination des labels, il manquait un palier. Il y avait l'aide phonographique qui était au conseil régional et disons la première aide et l'aide de la DGMIC était vraiment très difficile d'accès, il manquait des paliers. Donc en 2015, avec les premiers contrats de filière musique actuelle, a été expérimenté donc par un fonds créatif un appel à projet de label indépendant structurant. Et ensuite, le réseau en 2017 donc, a fusionné, la Fédération de labels indépendants, les salles, tout le monde s'est regroupé en Nouvelle-Aquitaine. Et on a aussi fait évoluer cette aide phonographique qui était le premier palier. Si je peux me permettre de vous partager un schéma, ce sera peut-être un peu plus simple.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, ouais,
en gros, schématiquement, bon. Ça ressemblait à ça. Enfin, l'idée, c'était d'articuler les dispositifs. Donc, voilà, le droit commun, l'aide à la production et à l'édition phonographique, qui visait la diversité culturelle portée par la région ex-Aquitaine, donc maintenant Nouvelle-Aquitaine, qui a été mis en place très vite après les premières concertations de 2006. Ensuite, en 2015, c'était de l'innovation et l'idée d'avoir aussi une expérimentation au sein du contrat de filière pour des labels déjà bien structurés, voilà, avec des cadres de financement différents et des objectifs différents. Et c'est aussi comme ça qu'on a pensé l'articulation. Et en 2017, on a fait évoluer l'aide phono qui s'est divisée en deux axes. Et donc aujourd'hui, on a vraiment un premier axe sur l'aide phono, sur la diversité culturelle, un deuxième axe sur la structuration, le développement économique d'un label, changement de ligne éditoriale, voilà un cap assez déterminant, assez risqué dans l'activité. Ensuite, voilà, le contrat de filière qui est vraiment là sur l'intérêt général et donc structurant parce que dans la transmission d'un savoir-faire en région auprès des pairs, dans une expérimentation et surtout dans la mise à disposition d'un temps pour le collectif, qui est très compliqué à mettre en place par les labels, parce que ce sont de microstructures, même les indépendants solides, donc de petites équipes. Et ceux qui détiennent le savoir-faire, le temps qu'ils passent sur vraiment le collectif, c'est du temps qui ne passe pas avant des disques. Et donc, ça les mettait beaucoup en fragilité. Et il y avait eu beaucoup d'années d'expérimentation. Et là, il fallait un petit peu remonter le soutien à ces pros-là. Et avant le palier aide à l'innovation qui était vraiment très costaud.
Quelle plus-value justement ça a apporté au niveau territorial, parce que vous commencez à avoir un petit peu de recul. Donc au niveau du territoire, tu m'entends pas. Au niveau du territoire, est-ce qu'il y a des changements notables dans justement la filière du fait de ces accompagnements, des aides qui ont été mises en place?
Alors l'effet d'entraînement, ce qu'on appelle l'effet d'entraînement, il est notable. Alors c'est pareil, l'effet d'entraînement, il est assez compliqué à évaluer parce que en termes d'indicateurs, on est sur, enfin, et en termes de bilan, on a tendance à aller sur du quantitatif. Malheureusement, entre des situations comme on l'a vécu juste là, de crise sanitaire ou de changement de loi sur l'intermittence, etc. On ne sait pas effectivement si c'était la politique agressive sur le streaming ou justement un appel d'air du fait que la région est devenue attractive pour la production et l'édition phono, qui fait qu'on a une région en tout cas qui est assez forte et qui est assez solidaire et tournée vers la coopération entre labels et aussi entre professionnels. Donc l'effet d'entraînement, on l'a noté, on le note, puisqu'on est toujours sur une discussion permanente et un partage permanent entre des labels qui sont installés depuis longtemps face à des jeunes labels qui eux aussi sont nés avec les réalités numériques, donc se sont construits pas forcément un peu comme les plus expérimentés qui ont dû ajouter des cordes à leur arc et qui ont eu du mal à accumuler les couches comme ça, à se dire moi je suis sur du tradi, promo disque physique, sur des schémas qu'on voyait il y a 15 ans et qui ne sont plus, dont on ne peut pas se passer aujourd'hui, mais auxquels on doit rajouter des paliers sur le numérique, des compétences qui changent énormément à une vitesse un peu infernale pour eux. Donc, il y a toujours un échange très fort entre pairs. Et l'interconnaissance, elle est assez récente aussi avec les autres acteurs de l'écosystème. Alors là, moi, je trouve encore assez peu de recul pour avoir été à la Fédé des labels et ensuite avoir favorisé justement le regroupement plus large avec d'autres professionnels. Le fait est que de nouvelles coopérations qu'on trouve naturelles aussi se sont faites entre des producteurs qui ont rencontré des programmateurs, des salles, d'autres professionnels en dehors de l'ex-Aquitaine, quoi, qui se sont vraiment ouverts. Et de toute façon, ce qui a été aussi très fort dans ce collectif-là, enfin dans le regroupement de labels, c'est qu'on est tout de suite passé interfilière. C'est que très vite, on est allé voir le livre, on a discuté avec le cinéma, et ça, c'est quelque chose qui perdure. Donc, ces échanges interfilières aussi, ils ont été très intéressants. Et là, selon comment vont évoluer aussi nos homologues du cinéma, etc., après la loi NOTRe, on leur laisse le temps de trouver leur repère et de repartir sur de nouveaux partenariats. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Tout à fait. Merci, Éléonore. On va parler d'un autre exemple de maillage territorial intéressant. Jacques, est-ce que vous pouvez nous parler de la prod mutualisée qui a été mise en place en Bretagne? Si vous m'entendez. Jacques, sur la prod mutualisée, vous m'entendez?
Oui. J'ai pas du tout compris, je suis désolé, mais je pense que c'est à moi de parler. Bonjour, donc je suis Jacques Passichler, chargé du développement artistique à l'Antipode, à Rennes. Là, bah, je vais vous parler d'un dispositif qu'on a sur la région. Alors, à l'Antipode, on est assez attaché à l'émergence, à travailler sur l'émergence artistique à travers un certain nombre de dispositifs, à travers aussi de l'accompagnement, des résidences, des actions culturelles. Et on est sur plusieurs dispositifs, alors à échelle très locale comme à l'échelle régionale, qui favorisent la coopération entre les acteurs. Donc, qui soutient et encourage cette notion de chaîne et d'écosystème. Sur la région, donc, on a un dispositif qui est très intéressant, je pense, qui nous a permis de pas mal nous structurer et puis justement de travailler en coopération entre les acteurs bretons. Mais vraiment sur le plan spectacle vivant, là, on est plus sur les lieux de musique actuelle, les scènes et puis les producteurs tourneurs. Donc c'est un dispositif qu'ils ont appelé soutien à la production mutualisée. Il s'agit en fait leur objectif, je pense, c'était vraiment le maillage territorial et la circulation des artistes. Et ça permet de cofinancer en fait des projets artistiques, de se mettre à plusieurs et puis voilà, de dire que l'union fait la force et la région fait un gros effort financier sur ces projets qui rentrent dans ce dispositif voilà, sur des critères qui sont assez souples et assez simples. Même si au final ça peut paraître un peu complexe à aborder, mais il y a des critères simples. Donc il faut être trois partenaires, trois lieux principalement, une équipe artistique régionale qui porte un projet, donc, et puis un apport minimum en financement de chaque partenaire. Et à partir du moment où on rentre dans ces critères-là, la région apporte une aide qui équivaut à 50% du budget global. Donc, c'est pas rien. Voilà, il n'y a pas du tout de... Ils sont vraiment sur le côté très mathématique et pas du tout sur l'aspect artistique, donc ils nous font confiance. Et nous, pour ça, ça nous a... Pour mener, en fait, ce projet, pour pouvoir proposer et rentrer dans ce dispositif, qui est à la base un dispositif qui s'adresse au spectacle vivant de façon très, très large sur toutes les disciplines artistiques en Bretagne, mais les musiques actuelles vraiment ont investi ce dispositif. Puisqu'on a réussi à se structurer à travers notre réseau Après-Mai, qui est notre petite fédération bretonne de lieux de musique actuelle, à avoir une instance comme ça qui réunit des chargés d'accompagnement, des programmateurs, des directeurs, autour de ces questions de production mutualisée. On a mis en place un outil partagé dans lequel on rentre nos repérages artistiques de chaque structure. Et puis, toutes les infos qu'on a à propos de ces projets, on les rentre sur un tableur qu'on échange et on se réunit une fois par an à peu près pour en discuter, pour échanger, et on part en début d'année avec un tableau qui part dans tous les sens avec 60-70 projets, et puis on aboutit à soutenir chaque année tous ensemble 10-12 lieux, je pense, une bonne quinzaine voire 20 projets tous ensemble chaque année. Et ce sont, alors on parle d'émergence tout de suite, mais on n'a pas essayé de définir l'émergence parce qu'il y a plein de niveaux d'émergence. Là, on est plutôt dans des projets qui se professionnalisent, qui ont déjà une expérience un peu des concerts, qui commencent à tourner un peu, et puis qui commencent à se structurer en termes d'entourage professionnel. Donc là, c'est avec un dispositif comme ça, on met un peu le pied à l'étrier à des groupes, on permet à des producteurs d'être plus confiants et de se mettre derrière. Et puis, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a une co-construction, comme ça, un échange vraiment qui fait que... on a l'impression de d'être vraiment inséré dans un écosystème où on partage une vision aussi d'un projet avec entre lieux de musique actuelle, mais aussi avec des producteurs et puis des artistes. Et le dispositif demande aussi aux structures qui déposent des dossiers de monter des projets d'action culturelle, ce qui est super intéressant puisque du coup on échange avec les producteurs et les artistes en premier lieu évidemment sur ce qu'on peut imaginer et ça ancre complètement sur les territoires les projets, ça nourrit le lien aux populations. Voilà, donc il y a un côté assez vertueux dans ce dispositif puisque à la fois on est sur de l'aide à l'émergence, mais on est aussi sur de l'utilité sociale, sans parler que du coup les équipes se rapprochent, les chargés d'action culturelle discutent entre eux d'une structure à l'autre, etc., au moment des projets communs ou complémentaires en tout cas. Et puis il y a l'utilité économique, puisque effectivement on peut aider à la structuration de petits producteurs, ou en tout cas on sert l'intérêt de projets artistiques et leur développement. Et puis, il y a ce côté coopération qui est super intéressant. Donc, voilà ce que je peux dire de ce dispositif qui a été fait de façon assez intelligente par la région et qui fait des petits, puisque la région Normandie et Pays de Loire se sont mis aussi à proposer ce dispositif. La structure de spectacle vivant.
D'accord.
Voilà, je connais pas exactement. Je sais pas exactement si c'est tout à fait les mêmes critères, mais je crois bien. Si, et du coup, on peut aussi monter des projets avec des structures de ces régions-là.
Voilà. Merci beaucoup, Jacques, pour ce témoignage et Léonore également. On a vu que en région, le Covid n'a pas été le point déclencheur de toutes ces initiatives qui peuvent se créer territorialement. Néanmoins, il peut être l'occasion justement de voir plus de situations de solidarité et d'innovation comme celles dont on vient d'entendre les témoignages à l'échelon des territoires et donc pourquoi pas même nationalement. Et justement, Nicolas, Philly, est-ce que vous pouvez, parce qu'on parle d'écosystème, j'essayais de mentionner quelques exemples d'acteurs de cet écosystème. De quoi on parle quand on parle de l'écosystème des musiques actuelles ? On fait un petit peu les choses dans un ordre différent, mais c'est problématiques techniques font que.
Oui, j'étais. Est-ce que ça va ? Vous m'entendez ? Oui. Voilà. Effectivement, bon, on peut revenir. Très rapidement sur ce qu'on appelle écosystème, sans partir dans des définitions trop complexes. On est ici sur un système de relations avec des éléments qui constituent cet écosystème et des personnes sur ces éléments ou des conditions spécifiques qui permettent à l'écosystème de vivre. On va trouver effectivement des ressources, des outils, des méthodes de travail, des dispositifs, des modes et des circuits d'échange. Des publics, évidemment, des populations disponibles ou disposées, des musiciens, des musiciennes, et puis des acteurs, des actrices. Bon, ça fait un beau petit monde. Ça constitue ce qu'on appelle l'écosystème, avec trois typologies d'acteurs que moi j'isole assez facilement, habituellement, c'est-à-dire celles et ceux qui conseillent, orientent, financent. C'est en gros les partenaires du financement, qu'ils soient publics, privés. Et puis, on retrouve évidemment les métiers de la production qui permettent d'accéder au financement et aident aussi donc les artistes à émerger par le système de création. La deuxième typologie, c'est celles et ceux qui aident à finaliser les projets, les créations pour les transmettre, pour les porter aux populations. Donc là, on va avoir globalement les équipements, les lieux de diff, les festivals. C'est les métiers de la diff. Et enfin, on a celles et ceux qui soutiennent ce que j'appelle moi la recherche, c'est-à-dire finalement ce qu'on ne qualifie pas encore de projet émergent. On pense ici à des lieux de découverte de la musique, d'éducation, de répétition, d'enseignement. On n'est pas encore dans un projet forcément abouti, qu'il soit individuel ou collectif, mais dans une simple notion de plaisir et de loisir. C'est tout à fait indispensable avant de passer ensuite à d'autres choses. Et ce n'est pas parce qu'on est dans cette disposition-là, évidemment, qu'on va passer ou va vouloir mettre en place un projet professionnel. Alors, à minima, quand on est dans un écosystème comme ça, qui se retrouve, ça vit toujours dans un équilibre instable, un écosystème, ça s'autorégule. Mais s'il y a une modification un peu trop rapide, on le voit là, par exemple, avec le climat, hein, il y a un dérèglement automatiquement au niveau de la planète et donc toutes les activités de la planète. Sur l'écosystème de la musique, on a ça, évidemment, sur les autres secteurs ou les autres filières, c'est la même chose. Avec le Covid, on a une sorte de biosphère artistique comme ça qui est complètement perturbée. C'est un arrêt violent qui permet quand même peut-être une chose, et peut-être aujourd'hui qui est importante, c'est celle de poser des questionnements et de poser une réflexion. À ce jour, c'est pas très facile de voir ce qui va changer. Il y a eu un temps, notamment pendant le confinement et puis juste après, où il y avait pas mal d'écritures, il y avait pas mal de voix qui s'élevaient pour questionner les pratiques professionnelles, pour questionner le rapport au public. Bon, on entend beaucoup moins ces voix aujourd'hui. Et à court terme, ce qu'on voit plutôt, ce sont en matière de diffusion des stratégies d'adaptation que je qualifie moi de douces, c'est-à-dire on utilise les salles, j'allais dire presque coûte que coûte, quitte à mettre des chaises, quitte à s'asseoir sur son projet artistique aussi, parce que je ne crois pas qu'avec des chaises on puisse présenter tous les projets artistiques. On a dans cette stratégie d'adaptation qui est douce, on a aussi des expériences quand même qui se mettent en place, notamment les expériences hors les murs, qui ont au moins le mérite d'être tentées pour celles et ceux qui essayent. Et à court terme, on voit aussi que pour la création, on a un renforcement du soutien qui se dessine ou qui semble se dessiner, notamment grâce à l'opportunité des salles qui finalement sont vides aujourd'hui et qu'on peut occuper assez facilement parce qu'on est moins embêté par le fait qu'il y ait des concerts. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Et puis, c'est vrai que si les salles sont vides, les équipes sont disponibles aussi, peut-être plus disponibles, y compris les équipes intermittentes. Donc, sur le court terme, on ne voit pas beaucoup de changements. Sur le moyen terme, j'ai moi le sentiment que tout le monde attend un vaccin, hein, et ni plus ni moins dans le secteur de la musique que dans celui de l'automobile. Tout le monde attend le vaccin, et aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de sensations comme ça, hein. J'ai pas fait un acte de recherche là-dessus, mais j'ai pas vraiment le sentiment qu'il y ait des vraies questions qui se posent. Il y a quelques mois, j'écrivais un texte en avril, et je reprends la phrase, j'avais écrit: l'erreur ou peut-être même la faute serait de se projeter sur la reprise sans poser un diagnostic sur les conséquences de cette crise dans la vie des structures et dans le projet de celle-ci. Je pense que c'est toujours vrai. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, ce qui ne se voit pas aujourd'hui n'est pas réel. Il y a sans doute plein de choses qui se font, mais on ne les voit pas. Et du coup, on ne peut pas non plus s'en inspirer, en parler, les prendre comme modèle, exemple, comme source de débat. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas très perceptibles. Pour ne pas citer que moi, je reprendrai une phrase de Brassens, « Mourir pour des idées ». À forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Alors, dans ce texte-là qu'il a écrit, Brassens, c'est pas mal de choses qui sont très contemporaines par rapport à la période dans laquelle on est. À rouvrir les lieux et à s'embarquer de nouveau sur les histoires qu'on avait, même en les adaptant un peu, en attendant que ça aille mieux, on risque de passer à côté de réflexions vis-à-vis de nos pratiques et vis-à-vis de nos actions, vis-à-vis du rapport qu'on peut avoir avec les populations, ainsi de suite. C'est mon avis, hein, je le pose comme ça. Je crois qu'on peut essayer quand même de découper un petit peu par séquence, par partie, par thématique, des questionnements qu'il ne faut pas oublier. J'en profite donc pour ici les proposer. Donc je reprendrai le premier point, c'est sur la question de la démarche. Est-ce qu'il y a de nouvelles valeurs qui peuvent animer notre démarche ? Est-ce que la question de l'éthique est suffisamment présente dans les démarches ? De quelle façon notre projet artistique et culturel peut-il s'enrichir de questions de société ? Je suis pas provocant quand je dis ça. Hein. Je suis pas certain que l'ensemble des lieux culturels se pose de cette manière-là et des acteurs. Faut-il faire évoluer notre modèle économique pour qu'il soit davantage en accord avec nos valeurs ? Comment pouvons-nous traduire la notion de solidarité dans nos actions ? Si je prends juste la démarche, ces cinq questions-là, dans les équipes et dans les structures, ce sont des questions qui sont, à mon sens, pas inutiles et qui peuvent amener aussi à profiter d'une certaine manière de la situation dans laquelle on est là aujourd'hui. J'essaie de positiver la situation. Je ne juge pas si ça n'a pas été fait. Il ne faut pas mal le prendre. Sur le deuxième point, je pense à l'environnement. On parle d'écosystème. Allons-nous continuer à travailler avec des structures qui n'ont pas d'objectif social ou solidaire ? Que pourrions-nous faire pour participer à des actions de relocalisation ? Avons-nous identifié des professionnels avec qui nous devrions travailler davantage ? Nos méthodes de coopération avec d'autres acteurs sont-elles suffisamment abouties ? Là aussi, c'est l'occasion sur notre environnement de se questionner. Sur les publics, les populations, une chose importante, moi qui m'a un peu choqué, mais qui ne tient pas évidemment seulement à la musique, hein, y a-t-il des individus seuls ou en groupe que nous devrions désormais chercher à toucher ? C'est-à-dire, est-ce que certains et certaines qu'on a pu voir sur des images de télévision, écouter à la radio, appréhender leur souffrance, est-ce que ce sont des gens qui ne méritent pas notre intérêt dans nos actions au quotidien ? Ou est-ce qu'on continue à travailler avec les mêmes populations, les mêmes publics ? Touchons-nous une palette suffisamment large de citoyens, de citoyennes dans notre territoire, dans notre société ? Connaissons-nous si bien que cela les pratiques de nos concitoyens ? Est-ce qu'on les prend vraiment en compte ? Est-ce que les évolutions là qu'on a pu percevoir, elles n'étaient pas déjà là ? Là, aujourd'hui, il y a une nouvelle enquête qui est sortie sur les pratiques culturelles, l'enquête décennale qui vient de sortir. Il y a des tendances, des nouvelles choses qui sortent, et on a pu voir encore de nouvelles pratiques. Comment on va les prendre en compte ? Est-ce qu'on veut vraiment les prendre en compte ? Et puis les artistes, quel contact avons-nous gardé avec eux ? Est-ce que c'était assez suffisant ? Est-ce que c'était suffisant, notamment au niveau local ? Sommes-nous vraiment aussi proches que cela des artistes qui soient amateurs en voie de professionnel ou professionnel ? Voilà, ce sont des questions qui peuvent être à poser. Sur la question des activités, nos actions sont-elles si essentielles au sein de l'offre de loisirs et de culture existante ? Nos activités et notre communication peuvent-elles sembler futiles, superficielles, incohérentes, indécentes ? Est-ce que nous devons développer des activités numériques à distance pour les artistes, pour les publics ? Sur les activités et les publics et les services, je pense qu'il y a pléthore de questions qui se posent. Est-ce qu'il faut réfléchir à redimensionner nos événements ? Sur la question des organisations, comment améliorer notre projet à partir de réflexions et d'expériences menées par d'autres ? Faut-il organiser des échanges en interne avec des équipes, d'autres structures, des réseaux professionnels ? Quels bénéfices en tirer ? Pouvons-nous améliorer notre efficacité et nos relations via le travail à distance ? Toutes ces petites questions-là, vous savez, on a entendu pas mal de philosophes pendant la... C'est pas moi qui les ai inventés, ce sont des choses qui ressortaient. Et puis sur l'écosystème, évidemment, que ce soit les méthodes de travail, les organisations, les outils, les dispositifs, quels sont celles et ceux qui ont été les plus pertinents, les plus efficaces, qui nous ont le mieux servi ? Et quelles sont celles et ceux qui ne sont pas intéressants à garder ou qui sont trop superficiels. Et peut-être que la crise nous permettrait de mieux les percevoir, ceux-là aussi. des nouvelles valeurs sont aussi peut-être non pas apparues, mais ont été beaucoup plus formalisées et même mises en avant, comme celle de la solidarité, mais peut-être aussi celle de la confiance. Ce sont des valeurs peut-être moins évidentes quand tout fonctionne bien à mettre en avant, mais aujourd'hui, en période de crise, non seulement elles sont évidemment intéressantes, d'autant plus qu'on est dans un secteur artistique et culturel qui veut donner du sens à ce qu'il fait et ce qu'il donne comme image, ce qu'il renvoie comme message. Donc c'est aussi des valeurs qui peut-être faisaient tâche avant ou étaient des sous-valeurs, et peut-être que ce sont des valeurs qu'il faut mettre encore plus davantage en avant aujourd'hui. Donc je voulais juste parler de l'écosystème et de son questionnement par rapport à la crise. Il y a beaucoup de questions, surtout n'y voyez aucun mal. Je fais partie des acteurs et il y a beaucoup de questions sur lesquelles moi-même, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas non plus totalement changé mes pratiques. Donc, il ne s'agit absolument pas de juger. Mais je trouve quand même que ça me paraît important, et quand j'en ai la possibilité, là aujourd'hui j'en ai la possibilité, c'est soit en l'écrivant, soit en prenant la parole, c'est d'essayer de rappeler quand même tout ça et ne passons pas à côté de ces questionnements, de ces sujets. On a quand même une vraie occasion de voir notre écosystème d'une autre manière et de le développer aussi peut-être d'une autre manière.
Alors ça fait beaucoup de questions pour lesquelles peut-être vous avez des réflexions et des envies aussi d'interagir. Sachez que vous pouvez le faire en direct en envoyant un message via Messenger sur la page de Haute Fidélité. Donc s'il y a des choses aussi, vous qui êtes nombreux à être des acteurs de cet écosystème, s'il y a des choses qui entrent en résonance ou sur lesquelles vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à envoyer votre message. Par ailleurs, justement, Vera, vous étiez donc à la table ronde du syndicat des musiques actuelles, qui a permis donc des échanges entre les producteurs et les diffuseurs. Est-ce que, justement, il y a des réponses à ces questions dans les conversations et les échanges qui ont pu avoir lieu et être tenus?
Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des réponses à toutes ces questions-là. Par contre, ça recroise quand même ce que, spontanément, j'ai pu entendre sur cette table ronde, du coup, qui s'est déroulée avant-hier. Effectivement, la question qu'on se posait, c'était qu'est-ce que cette période a provoqué effectivement sur chacun d'entre vous et comment vous allez projeter les choses. Alors, a beaucoup été signalé qu'effectivement, pendant toute cette période, notamment de confinement, et puis d'incertitude totale avant l'été, puis d'incertitude encore totale après l'été, ça avait effectivement... cette période avait été compliquée, difficile, l'histoire des reports, des annulations, parfois des re-reports, enfin, c'est pas des choses qui étaient forcément bien vécues à ce niveau-là. Que ça avait, pour certains, alors c'est des grands traits hein, que j'essaie de ressortir, mais pour certains et certaines, ça avait en fait, ils avaient observé parfois presque un éloignement ou une rupture de dialogue entre producteurs, festivals, diffuseurs, c'était le public hein, qu'on avait sur ce moment-là, cet atelier. Et pour autant, en cette rentrée, on voyait finalement pour beaucoup l'idée de se dire « va falloir s'adapter, va falloir réfléchir ensemble, va falloir faire davantage ensemble ». Il y avait effectivement un dialogue quand même entre les artistes et les producteurs qui sont quand même aussi les premiers à s'en préoccuper et à être en dialogue avec eux. Mais il y avait aussi du dialogue avec les diffuseurs, enfin entre donc les différents acteurs de cet écosystème et une envie ou en tout cas de réfléchir ensemble à comment on pouvait faire. La question forcément de l'émergence, elle est ressortie à ce moment-là puisque... dans un moment comme ça où effectivement on ne peut plus du tout réfléchir à l'accompagnement artistique, la production, la diffusion de la même manière qu'on pouvait le faire auparavant, il y avait des touches plus positives, j'ai envie de dire, de personnes qui se disaient si on voit aussi les choses plus positivement, on peut aussi revenir à des cœurs d'enjeux qu'on pouvait aussi avoir auparavant, qui étaient quand même de faire de la découverte, de l'émergence. Et donc peut-être de réfléchir à ça, alors certes localement, mais pas que, mais en tout cas ce principe même de réfléchir différemment, d'aller retravailler les questions de création plus ensemble, c'est-à-dire de re-réfléchir à de la production mutualisée, mais pas que, à comment on peut porter, accompagner des projets ensemble. Et puis, du coup, voilà, comment ça peut évoluer de cette manière. Il y a eu aussi des exemples de solidarité un peu nouvelles qui se sont créées, en tout cas du point de vue de ce que je peux observer. Alors, de manière très pragmatique, par exemple, au sein d'un même territoire, avec la jauge réduite, il y a certains lieux qui peuvent quand même accueillir de manière assez conséquente, d'autres pas du tout. Et du coup, on voyait que certains, du coup, accueillaient la diffusion ou la production de leurs collègues sur leur propre lieu, qui permettait, par exemple, d'accueillir plus de personnes. Ça, c'est pas des choses qu'on voyait forcément. Il y avait des coopérations avant, ça veut pas dire qu'elles n'existaient pas sur les territoires, mais ça, typiquement, c'est peut-être des choses, du coup, qui se font plus naturellement ou qui se font de manière plus partagée. Peut-être qu'à un certain moment, ça commence. Hein. Faudra voir, bien sûr, à moyen terme et à long terme. Et il y avait, bien sûr, aussi ce qui est ressorti pour finir, la question quand même de dire on a envie d'avancer ensemble, mais pour avancer ensemble, il faut, et pour qu'on passe vraiment ensemble, surtout évitons bien sûr de rentrer aussi dans une concurrence, parce que si certains émargent à certains dispositifs auxquels par exemple des producteurs avaient lieu et que les diffuseurs s'y mettent, à un moment c'est pas ça faire ensemble, c'est-à-dire que ça va créer du décalage et finalement de la concurrence là où on n'en veut pas. Donc c'est plutôt comment on réfléchit de nouveaux dispositifs aussi de ce type d'accompagnement ensemble, et comment bien sûr voilà on arrive à tirer des leviers, notamment via le CNM, il y a peut-être d'autres choses aussi, mais en se mettant pour une fois ensemble et en essayant de créer ces dispositifs qui puissent s'adresser voilà à tous de la même manière.
Voilà. Merci Vera. Julien, vous êtes directeur d'une maison de label. Quand vous entendez à la fois ce qui ressort de ces tables rondes, mais aussi le témoignage du RIM en la personne d'Éléonore, qu'est-ce que ça vous inspire justement ? Est-ce que, par exemple, le travail qui est mené en Nouvelle-Aquitaine, ça fait écho avec ce qui a finalement impulsé la création de votre maison de label ?
Je pense que je vais envoyer un texto à ma femme pour déménager en Nouvelle-Aquitaine, en fait, tout simplement. Pour commencer, non, parce que c'est très intéressant, et on avait commencé cette discussion dans cette même région à Lille avec Joanne il y a quelques mois. C'est intéressant de voir comment chaque région pense. Moi, ce qui m'étonne le plus de tout ça, parce que je suis pas du tout dans la construction, on va dire régionale, etc. On est privé, c'est une maison de disques au départ, un label qui grossit un peu, qui se rend compte que effectivement, il n'y a pas vraiment de différence aujourd'hui quand on voit les petits métiers et les petites structures qu'on est entre les. On a tous besoin les uns des autres, les éditeurs, les labels, les produits, les diffuseurs, etc. Ça reste. Quand on démarre, en général, on fait un peu tout. Après, justement, on grandit, on se dit c'est un peu chiant de tout faire. Et du coup, on éduque les artistes avec nous. En même temps, on grandit tous ensemble. Et après, le plus important, c'est de faire comprendre aux collectivités, finalement, hein. On parle de CNM qui est un truc qui est, ça avance, c'est tout nouveau, mais bon, on parle de FCM avant, Adami, etc., tous ces dispositifs, en fait, finalement, ils sont vachement adaptés à ce qu'on fait, mine de rien, enfin, c'est très, très ciblé, donc quand on rentre dans les cases qui sont justement, qui créent un niveau tout seul, finalement, qui sont structurants, ces choses-là sont structurantes, parce qu'on peut plus, demain, on peut plus enregistrer un gros, si on demande des subventions à l'Adami pour du disque, pour de la production phono, il va falloir cachetonner les artistes en studio. C'est plus du tout le même niveau de label quand on commence à faire ça. Pour moi, ça a été en tout cas au début, au bout de 3 ans, ça a été un peu comme dans une relation. On a fait des disques avec 3 francs 6 sous, et puis un jour on dit bon allez, on y va quoi, et puis on prend les risques. Donc c'est vraiment ça. On discutait avec Alex avant, je pense qu'il a le même ressenti à ce niveau-là. C'est un autre game quoi. Et le truc, c'est qu'on a l'impression de travailler au NACIO avec ces structures-là en étant complètement déraciné de là où on est, parce que du coup, les collectivités ne sont absolument pas du tout en phase avec la réalité nationale. Quoi. On a des gens qui n'arrivent pas à apprécier, pas l'artistique, hein, mais le développement de ce truc-là, qui sont complètement, pas pour tout le monde, hein, à côté de leur pompe au niveau de qu'est-ce que c'est que ce métier globalement, en fait. Et à part faire... on va dire, faire pleuvoir un peu d'argent en disant, ben, nous, ce qu'on met en avant, par exemple, c'est la diffusion à l'export ou ce genre de choses. Justement, c'est où est-ce qu'on distribue 10 fois 1 500 euros sur un groupe qui va aller tourner en, en Allemagne ou en Angleterre, si la personne arrive bien à faire ses dossiers, il les récupère, c'est 1500 euros, mais ce n'est pas du tout en phase avec la construction. Et surtout, derrière, il ne se pose jamais vraiment la question de est-ce que ça a été utile. Tu as posé la question tout à l'heure à Éléonore, très justement, est-ce que ça a mis des résultats. Très souvent, il n'y a jamais cette question qui se pose, je trouve, au bout des années. Au bout de... Même moi, des fois, je dis, mais c'est incroyable, j'arrive à leur prendre des sous, ils ne me demandent même rien à la fin. Quoi. Et je... Alors que de l'autre côté, nos demandes sont ultra cliniques et derrière le retour sur investissement, il est clinique, etc. Il faut avoir pas du rendement, mais il faut montrer qu'on fait vivre le disque, la tournée, peu importe hein, finalement. Et je trouve qu'on est sur un pays à deux vitesses entre les collectivités et ce qui se passe dans la filière, en fait, purement et simplement. Mais depuis, pour le coup, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ça, et je trouve que depuis 4-5 ans, justement, les collectivités ont fait énormément d'efforts pour s'informer, pour être présents dans les festivals, etc. Donc ça prend un peu de temps, hein. C'est pas des choses qui se font rapidement. Et là, encore une fois, moi je parle au départ pour l'Alsace, ensuite pour le Grand Est, parce que je viens de Strasbourg. Et j'adore venir dans les autres régions et voir comment ça se passe. Et c'est pour ça qu'avec Joanne, c'était super intéressant, parce que il y avait des avancées énormes qui étaient faites depuis 7, 8, 9 ans, où nous, on était seulement en train de commencer à y arriver. Par exemple, le simple fait de haute fidélité n'existe pas au Grand Est. On n'a pas, le pôle est en train de se faire, ça fait 2 ans et demi, et personne n'est d'accord. Et finalement, au bout d'un moment, on se dit qu'on a signé pour un truc, on ne sait pas trop ce que c'est encore. Quoi. Et on ne sait pas qui vont être les gens qui vont faire les choses. Est-ce qu'on va créer des emplois en rassemblant le plus grand nombre, avec le plus grand nombre de signatures. Vous voyez, au bout d'un moment, on est sur un truc où on a l'impression que ce n'est pas, encore une fois, pas en phase avec les besoins réels. C'est-à-dire, bon, bah voilà, nous, on fait ça. On était un label qui faisait 20 000 de chiffres en une année parce qu'on faisait avec 3 francs 6 sous. Hein. Aujourd'hui, avoir, un chiffre d'affaires à 300 000 euros, par exemple, avec des artistes qui peuvent remplir des salles à Paris, tout comme avoir des petits artistes folk. C'est le plaisir aussi de ce que je fais. Je travaille sur un artiste rock qui peut remplir des salles en France aujourd'hui. Et de l'autre côté, je signe un artiste folk par passion, qui va absolument rien remplir au départ, mais qui a un talent incroyable. Et donc, on repart à l'assaut du 360. Je me retrouve à de nouveau vendre des dates, alors que je m'étais promis que je ne ferais plus jamais ça. Je vends des dates, je fais du management, je fais du label. Enfin, toutes ces choses-là, finalement, bah, quand on est dans l'émergence, c'est ça qui est super intéressant, c'est les différentes vitesses des artistes. Mais il faut faire confiance à ces développeurs d'artistes. Et les collectivités, c'est leur travail, c'est de leur faire confiance. Et pas forcément de, on va dire, pas d'éparpiller l'argent, mais de se dire à un moment, ok, mais après, on sent qu'il y a une vraie, en tout cas chez nous dans le Grand Est, il y a un vrai besoin et une demande de leur part, et ça évolue dans le très bon sens. On est régulièrement sollicités, on travaille très bien avec eux. Donc si quelqu'un raconte des choses au Grand Est, j'ai dit que du bien. Ils ont mis du temps au début, mais franchement, depuis quelques années, c'est super cool. Et j'espère qu'on arrivera à des choses comme ce qui se fait en Nouvelle-Aquitaine, parce que pour le coup, la ville de Strasbourg et la région Grand Est ne reconnaît pas la production phonographique dans les subventions, pas du tout. On est uniquement sur la diffusion, comme si, et ce qui a été dit aussi très justement au départ, comme si on pouvait faire de la diffusion sans le disque. Quoi. Donc c'est un truc, vous y démerdez-vous, vous financez votre disque, une fois qu'il est bien, qu'il est propre, on ne sait pas trop si vous le distribuez, on s'en fout un peu. Par contre, si vous partez en tournée, on peut mettre de l'argent pour mettre de l'essence dans le camion. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc c'est toujours un peu étrange, mais voilà mon ressenti. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais
si.
Il y a un peu de tout ça, mais les choses avancent. Et les choses, bon, je ne vais pas reprendre tous les points de Nicolas, mais c'était ces questions entre salles et producteurs, etc. Elles se posent d'elles-mêmes, en fait, puisque tout le monde, à un moment, se regarde un peu dans le blanc des yeux. Genre, toi, tu ne fais rien non plus en ce moment. Non, bah, pas grand-chose, là. Tes artistes, ils ne font rien, non. Ouais, ils veulent venir dans la salle. Ouais. Ah, tout le monde est surgonflé et prêt. Les shows, ils sont chauds. Tout est là, hein. Mais il n'y a pas de date, quoi. Donc... C'est vrai qu'il y a un moment où il y a d'un côté les artistes qui ont besoin de faire des choses. Et je ne parle vraiment pas qu'en termes de cachet, parce qu'il y a cette réalité financière, mais il y a un vrai besoin aujourd'hui de créer et de se dire, bon ben voilà, ça, oublions les dates pendant un temps, retournons à nos créations, parce que c'est ce qu'ils aiment faire. Et les labels ou les managers et les producteurs de spectacles, au final, ils se disent, bon ben... Faisons un trait sur ces dates, etc. Parce qu'elles sont importantes pour tout le monde, autant pour le label que pour le producteur de spectacle. Le producteur de spectacle, lui, il est impacté immédiatement, la salle immédiatement, l'éditeur, il va prendre cher en 2021. Enfin voilà, on connaît... Oui, mais déjà, ça va commencer en 21. ça commence tout doucement maintenant, mais en 2021, la BAF, elle va être vénère. Aucune date en 2020, ça va faire quelque chose au DEP, je crois. Donc, et moi, je ne sais toujours pas si je dois sortir des disques ou pas. Toutes les deux semaines, on s'appelle avec les producteurs de spectacles en disant, bon, on les sort quand ? Je ne sais pas trop. Tu les sors en digital, ouais. Mais clairement, financièrement, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas... C'est pas genre ça craint pas de ouf, c'est pas fou, hein, mais effectivement il y a toutes ces questions qui se posent de la filière, comment on la fait, est-ce qu'on peut la faire différemment, il faut la faire différemment, de toute façon on n'aura pas le choix, et décloisonner justement les différentes collaborations entre on a tous tellement une petite part de marché que c'est déjà hallucinant qu'on soit chacun dans notre coin à faire ces choses là quoi. Et c'est pour ça au final je me retrouve à faire ce que je faisais en 2009, je fais tout de nouveau, en fait, et ça marche presque un peu mieux, quoi. Et il y a un moment où je me dis, on est peut-être allé trop loin dans les disques, on a peut-être dépensé trop d'argent, revenons un peu à la base de pourquoi on le faisait, quoi, et repartons sur des groupes émergents, à les aider du début à la fin, et quand on a fait un beau disque, on sera très content, en fait. Et en fait, c'est super cool aussi, quoi. Après, ça crée un peu moins d'emplois, ça crée un peu moins de régularité, ça fait louer moins de lieux, enfin, bref, on est moins dans la structuration, on est plus dans l'artistique, du coup. Et dans le fait d'être vraiment très proche de l'artiste et d'être sur moins d'artistes. Mon positionnement plus ou moins depuis 6 mois, mais je crois qu'il s'est fait un peu naturellement. Après, justement, il y a eu une... Pour mon expérience, mon témoignage, c'est une solidarité incroyable, en tout cas en Alsace, des salles de concert, quoi. Première chose, dès le départ, pour nous, la laiterie, le Noumatrouf à Mulhouse, l'espace Jean Gorenard, tous ces gens-là m'ont appelé en me disant comment on peut faire vous aider et répercuter ça sur vos artistes, clairement. Parce qu'ils m'ont dit, nous, nos équipes administratives sont protégées par les subventions, etc. Donc, quand ils jouent pas, presque, je vais pas dire qu'ils gagnent de l'argent, mais ils en perdent pas, quoi. Oui. Donc, finalement, non, mais il y a une vraie réflexion. Et en face, il y a des privés qui, eux, quand il n'y a rien qui rentre, il faut rien sortir, quoi. Et c'était le début de la misère, c'est que d'un coup, on travaille avec des artistes où on leur dit, en fait, on peut rien faire, on peut rien sortir. Donc, tout le monde était au... Voilà. À ce moment-là, il y a eu cette vraie... Cette vraie dimension de, on parlait tout à l'heure de genre de mutualité, des choses où les gens l'entraide en fait tout simplement, qui a existé. Et puis, mais par contre, pas beaucoup plus entre acteurs quoi. C'est là où
les gens restent quand même encore relativement en silo.
Ouais. Toujours un peu, mais bon, il y a différentes vitesses pour tout un chacun. Donc, c'est très difficile de mettre quelqu'un qui démarre, qui arrive avec une plus grosse structure. Moi, j'étais tout petit il y a 10 ans. En termes de production de disques, on est les plus gros aujourd'hui à Strasbourg. Mais pour autant, on est dans un cluster avec plein d'autres structures autour. On travaille avec la laiterie toute l'année depuis des années. Et c'est ça qui crée les choses. Sauf que tous ensemble, la laiterie, les labels indépendants dans ce truc-là, on sent ce décalage par rapport à la région et à ce qu'ils essayent de faire, mais ça avance. Tout ça avance. Mais par contre, maintenant, c'est OK, bon, bah, la ville, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on en est ? Ils sont complètement pas du tout dedans, quoi. Au point qu'à un moment, on nous a demandé de former les techniciens des collectivités pour qu'ils comprennent les budgets et les dossiers, pour qu'ils puissent les apprécier. On leur a dit, bah voilà, en gros, un dossier, par exemple, de disques ou de tournées qu'on fait au niveau des sociétés civiles, Adami, FCM, SPPF, toutes ces choses-là. Regardez comment ils fonctionnent et voilà les critères d'appréciation pour qu'ils se calent, pour qu'on ait une vérité, qu'on ne soit pas sur deux vitesses. Parce que la vérité, c'est quand on est un peu malin au début et qu'on commence, on se dit, on s'est créé deux vies, quoi. On se crée la vie professionnelle pure et puis la vie des collectivités. C'est la vérité.
Voilà. Alors Alex Monville, d'ailleurs, je vous vois sourire. Vous êtes directeur donc, de la biscuiterie et en même temps directeur de la couveuse. Donc vous avez la double casquette, label et lieu de diffusion. Alors ce que j'ai déjà entendu, c'est un groupe, on ne va pas l'accompagner si on n'a pas confiance en sa capacité de se produire, de vendre des disques, de tourner, etc. Est-ce que la situation actuelle rebat un peu les cartes ? Vous qui dirigez un lieu de diffusion, comment vous vous situez et comment vous situiez ? Est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs sur la question de l'accompagnement de l'émergence ?
Pardon. Pour la salle, je vais essayer de répondre. En fait, notre optique, c'était une optique territoriale. Donc, on a fait le choix de faire un peu l'impasse sur ce que le marché attend. Voilà. Nous, on est sur un territoire rural où Les artistes, qui sont moins nombreux que sur des territoires urbains, ont plutôt... c'est plutôt l'axe trio, ou la rue qui est à nous, que le truc super branchouille du moment que tout le monde va s'arracher. Donc on a choisi de ne pas choisir, en fait, de travailler avec les artistes qui sont là, indépendamment de ce qu'ils sont. Voilà. Après, juste pour répondre à ça, en fait, bon, comme tout le monde, on s'est pris une grande baffe. Donc le choix qu'on a fait, après avoir beaucoup hésité, c'est qu'on a copié un événement qui s'appelle Chant à Part, et en fait, nous, on a choisi de faire des concerts chez les gens en petite jauge. Le but du jeu, c'était de faire travailler les techniciens du coin et les artistes de la région. Parce qu'on s'emmerdait. De deux, parce qu'on trouvait ça mortifère et qu'il fallait bien essayer de faire un truc. En fait, on est très content de l'expérience. Alors, juste pour préciser un truc, une moitié des spectateurs venaient invités par le lieu parce qu'on les connaissait, et l'autre moitié, c'était les invités de l'accueillant. Ce que ça a fait, c'est que nous, on a rencontré plein de gens qui ne venaient jamais au concert. Donc ça, c'est assez génial. Donc du coup, on en tire de la donnée. En tout cas, un ressenti vis-à-vis de ça. Pour être très honnête, là, ça nous pose plein de questions, en fait, de se dire comment on est plus proche de notre territoire, de notre écosystème. Et donc, du coup, nous, on se pose une question d'écosystème, on va dire, de territoire, plus que de filière. Voilà. En fait, on en est là. En tout cas, c'est une question qui revient très fort. Et puis, en fait, on est très, très choqués, finalement, de se dire que les gens ont sans doute plus milité pour la réouverture des restaurants que des salles de concert. Ce qui nous fait dire à quel point est-ce qu'on ne serait pas éloigné des gens qui sont autour de chez nous, quoi. Voilà. Donc voilà, ça nous pose ces questions-là, et on se dit qu'on a envie de, on a envie d'être vraiment terroir pour les années qui viennent, quoi. Voilà, dit de manière un peu conne.
Et est-ce que du coup, il y a déjà une traduction potentielle dans vos réflexions sur la forme que ça va prendre, cette évolution du projet, en fait ?
Ben, on se dit que, on va garder ça. En fait, on va garder le fait d'amener le concert chez les gens. Voilà. On ne sait pas trop comment, ça va se financer, parce que ça coûte, il n'y a pas de recette de billetterie. Voilà, enfin, c'est différent, il va falloir qu'on le pense, mais en tout cas, ça nous a permis de découvrir des gens, des endroits, de passer des moments vraiment cool, quoi. Enfin, voilà. Et que ça, c'est l'essence du truc, en fait. Donc on se dit, en dehors des concerts dans la salle, il faut qu'on fasse ça. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la médiation, de l'action culturelle. Enfin, il faut ramener le concert chez les gens qui ne viennent pas au concert, d'une manière ou d'une autre. Voilà.
Donc pour ce qui vous concerne, on est dans le pendant, parce qu'on parle beaucoup de la période d'après. A priori, pour vous, la période d'après, ce sera une continuité éclairée de cette période actuelle. Il n'y a pas de retour aux pratiques antérieures
Mais j'en sais rien. Je ne suis pas devin, en fait. On va faire avec le cadre de contraintes qu'on a maintenant tout de suite. Parce que sinon, on va tous attendre. Bref, je ne vais pas rentrer dans les trucs internes, mais ça crée un truc extrêmement pas dynamique et pas joyeux au sein d'une équipe. Il faut aussi le dire. Et que si on n'a pas envie d'avoir 15 arrêts maladie, des gens qui vont finalement dire « Bon, moi, laisse tomber. Hein. Au retour... je fais un autre métier, enfin voilà. Et puis, je trouve que c'est pas une image cool pour les artistes de renvoyer cette espèce de truc lugubre, genre on peut rien faire, enfin voilà. Donc voilà, la démarche est plutôt celle-là. Après, pour les solidarités, on savait pas trop quoi faire, donc on a appelé tous les gens qui étaient autour de chez nous, qui avaient des festoches, des cafés-concerts, des machins, déjà pour prendre des nouvelles. Voilà, ne serait-ce que pour se dire tous, ah ça va mal, c'est les boules, au moins ça. Ça nous fait nous parler, en tout cas. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas si on fera des trucs extraordinairement formidables. Mais en tout cas, on a repris l'habitude d'aller se voir ou de se passer des coups de fil. Voilà.
Donc ça, oui, ça crée du lien en territoire. Finalement, il y a quand même malgré tout des choses entre guillemets positives qui découlent de cette situation face à laquelle tout le monde est exposé. Au niveau justement, dans un futur où potentiellement, parce qu'on peut y rêver, il y a une reprise, sinon à la normale, quasi à la normale de l'activité dans les lieux de diffusion et donc pour toute la filière. Comment justement renforcer et maintenir cette solidarité localement? Quelles sont, vous, les choses dont vous rêvez chacun sur vos activités?
Alors, je ne sais pas si on rêve. En tout cas, dans les questionnements en cours, il y a la responsabilité qu'on a de travailler avec tel ou tel producteur. Je vais essayer d'être plus clair quand je dis ça. Quand on paye une session à un producteur très proche, en fait, ça envoie un message positif vers l'extérieur, ça le crédibilise et ça met du beurre dans ses épinards. Donc, on se dit que, outre le choix artistique, il faut aussi qu'on intègre ce choix-là. En gros, est-ce qu'on travaille qu'avec Nestlé ou est-ce qu'on travaille aussi avec le petit producteur local? Voilà, en fait. Alors, je vois bien tous les problèmes que ça pose, mais on se dit qu'il faut qu'il y ait une part de l'argent public qui nous est donné indirectement, qui aille vers les copains du coin pour qu'ils puissent continuer à vivre et voilà, que ça s'alimente. En fait, on est vraiment sur des questions d'échelle en ce moment. La question, c'est vraiment ça. À quelle échelle on doit travailler? Et tous les paradoxes qui vont avec. Parce qu'il y a un espèce de... Bon, bref, je vais aller beaucoup trop loin, mais il y a un espèce de gigantisme des SMAC. Enfin, voilà, il y a eu toute une génération qui arrive de bâtiments qui sont très gros, donc des grosses équipes, des grosses prods, des gros artistes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avec qui, quand on a ce type d'équipement, avec qui on travaille pour remplir une salle qui fait 3000, 4000, etc. Voilà, il y a plein de... En tout cas, voilà, ça réveille des questions comme ça pour notre équipe.
Et du coup, il y a des mots qui circulent, des idées de quotas régionaux ou bien de chartes d'engagement pour, par exemple, des questions de rémunération de certains acteurs intermédiaires. Est-ce que c'est des choses qu'il faut formaliser? Ça s'adresse à tout le monde, hein, pour le coup, autour de cette table. Vous pouvez tous vous prononcer.
Juste un mot. Ce qui serait impardonnable, c'est justement de laisser faire et d'être dans des expérimentations permanentes sans que personne se parle. C'est ça le truc, c'est que aujourd'hui il y a des super expériences, il y a des tas d'idées qui avancent, tout le monde se rend compte de ci, de ça, donc il faut absolument qu'il y ait de l'interconnaissance qui se crée. Bon, ben, les réseaux territoriaux sont là pour ça, au niveau national aussi. Il y a quand même quelque chose qui a été assez remarquable pendant le confinement, c'est que très vite, il y a une machine d'échange qui s'est mise en place. Les échanges n'existaient pas, au moins, pas de la même manière. Là, ça s'est activé très très vite. Mais tout ce qui se passe et qui est intéressant, il faut à la fois le valoriser, voilà, ça c'est sûr. Il ne faut pas avoir peur d'en parler non plus, parce que quelquefois, ça fait gros mot de dire qu'on va là où on n'allait pas auparavant, voir des gens. Moi, ça me fait peine, moi, de voir que... il y a tout un réseau d'amplification qui existe en France, il y a tout un réseau de musiciens, et à la sortie du confinement, les EHPAD, les vieux, ils restent encore dans leur truc, là, pendant des semaines, ils n'ont rien. Et on devrait être capable de sortir les amplis et jouer en bas des EHPAD. Je m'en fous, moi, de leur passer même du Edith Piaf. C'est, qu'importe dans l'absolu. Mais quelque part, il n'y a pas le droit de faire comme si tout ça n'existait pas, et il faut attendre le mois de septembre pour repasser le groupe, je ne sais pas quoi. C'est ça, être dans la société aussi, quoi. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Enfin, moi, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Et pendant peut-être trop longtemps, on a peur de travailler avec des artistes locaux. On a peur de ça. Il ne faut pas en avoir peur. Et quand tu parlais des grosses machines, des grands lieux et tout ça, c'est vrai que c'est pas terrible de faire ça. Ou alors on va appeler ça action culturelle, médiation. Bon, voilà. On est bien obligé d'en faire, donc on en fait. C'est quand même dommage, parce que là, aujourd'hui, ce sont des vraies opportunités, là, aujourd'hui, de voir qu'on peut avoir un autre rapport, découvrir d'autres gens, d'autres publics, d'autres populations, vivre autrement la musique. Mais ce qui serait impardonnable, c'est de ne pas se poser les questions. Là, aujourd'hui, on ne va pas se dire, tiens, on va faire un quota pour éviter, pour participer à préserver la couche d'ozone et faire moins d'artistes étrangers, internationaux... Donc on va travailler avec le local et patati patata. pourquoi pas, mais parlons-en. Échangeons, questionnons, soyons positifs par rapport à ça et ne soyons pas dans l'incantation en disant bon ben il faut arrêter avec l'international parce que ceci ou il faut faire du local parce que cela. Parce que là, on tombe dans des extrémismes, on a des réflexions politiques qui ne sont jamais très loin de ça aussi, quelquefois. Il ne faut pas qu'on tombe là-dedans, il ne faut pas être idiot à ce point-là, par manque de temps, de recul ou par peur. Et ça, à mon avis, c'est ça qu'il faut réussir à franchir aujourd'hui, c'est de se dire, bah, tant pis, si la rentrée elle se fait un peu moins vite, si l'année elle se passe de manière un petit peu plus chaotique, profitons quand même de ce temps-là pour réfléchir et travailler ensemble sur ces questions-là. Et c'est vraiment le truc majeur qu'il faut aborder aujourd'hui. Et on risque vite d'être condamné autrement à retourner sur un ancien système. Et si on regarde un peu les autres esthétiques, eh ben, petit à petit, s'il n'y avait même pas eu cette crise, peut-être que d'ici à 10 ans, la moitié des concerts qu'on trouvait dans des salles, c'était des cheveux gris, comme dans les cinémas art et essai, comme dans les théâtres. Mais c'est peut-être l'occasion aussi de se poser la question de la renouvellement des publics, aller ailleurs que dans le lieu. C'est pas une cathédrale. Il y a moyen de faire autrement. Et si des cathédrales ont été construites auparavant dans l'histoire, eh ben, elles peuvent servir à autre chose maintenant. Elles peuvent être ouvertes à d'autres disciplines, à d'autres esthétiques. Il y a beaucoup d'esthétiques aujourd'hui qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas de lieu d'expression. Mais pourquoi pas réfléchir sur certains territoires à faire aussi évoluer les lieux. Il n'y a pas à se mettre de barrières particulières par rapport à ça. Enfin, à mon sens, si les questions ne se posent pas et si elles ne sont pas débattues, ce sera des passages en force. Et là, l'interconnaissance, les réseaux territoriaux, la coopération, les histoires de solidarité, tout ça, justement, ce ne sont pas des histoires. C'est là où on peut gagner en efficacité, en crédibilité. Et puis, voilà.
Alex, vous vouliez réagir, je pense, quand il y a été question notamment, par exemple, pourquoi pas de faire des concerts au pied des EHPAD. Vous disiez que ce n'est pas autorisé.
Ben on a, enfin en tout cas dans le département où on travaille, le préfet n'a pas autorisé qu'on fasse des concerts sous les EHPAD parce qu'on n'avait pas le droit de se rassembler. Enfin bon, bref, il n'est pas très cool le préfet du coin, enfin en tout cas par rapport aux manifestations. Voilà, c'était comme ça. Mais bon, c'est un point de détail, c'est pas très important. Après, sur la question de faire des quotas, ben je sais pas. Je sais que, par exemple, avec notre CA, ça a été un long débat. Notamment pour la place des femmes dans la programmation. Du coup, alors on a un CA qui est très militant sur cette question. Et bref, donc c'était un vrai débat avec l'équipe. Et le CA disait, oui, mais au bout d'un moment, s'il n'y a que ça pour faire bouger les choses, il faut essayer d'aller vers 40% de... Voilà. Donc je me dis, ben, peut-être que pour le régional, il faut passer par ça. Parce qu'après, il y a tout la force d'un système qui est déjà là, en fait... On va rentrer dans les trucs un peu... Mais c'était l'histoire monde d'après, monde d'avant, monde de maintenant, etc. etc. Mais on voit bien à quelle vitesse on reprend l'activité, quelle qu'elle soit, en ce moment. Avec des gens que ça inquiète, je sais pas, pour la scolarité... Enfin, voilà. Des gens qui sont inquiets de cette reprise d'activité. Peut-être que ça pose la question, est-ce qu'on doit reprendre à tout prix, de la même manière, en fait, aussi intensément, sur les mêmes modèles.
Je ne sais pas si Julien, vous vouliez compléter là-dessus.
Ah, c'est d'accord avec Alex. Globalement, sur ce monde d'après, comment on l'envisage, etc. On ne peut pas mettre un... Puis tu l'as dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'artiste américain pendant 2 ans en France. Donc, a priori, le monde d'après, il n'est déjà plus le même, de toute façon. Et puis s'il y a 15 ans ou 20 ans, les politiques ont décidé de faire des smacks de partout et que les égos de chaque ville voulaient faire la plus grande et que du coup maintenant il n'y a que les gros groupes américains qui peuvent venir, ça va être bizarre pour eux, quoi. Donc finalement les petites salles qui veulent faire des choses chez les gens seront les winners, quoi.
Quand je vous écoute, en fait, j'ai l'impression que ceux qui ont laissé la place à l'émergence depuis très longtemps sont ceux qui... à défaut de forcément bien s'en sortir, en tout cas, sont peut-être ceux qui s'en sortiront le moins mal, au sens où leur public ont été peut-être, avec beaucoup de guillemets, éduqués à une forme de curiosité, à une ouverture, à des esthétiques peut-être différentes. Est-ce que c'est aussi une opportunité pour tout ce monde-là?
Oui. Voilà. Oui. En vrai, j'ai pas... C'est très vrai. Donc, Il y a énormément de manières de consommer qui étaient déjà là, qui se sont confirmées aussi par ce confinement, parce que les gens étaient chez eux, tout simplement, donc ils ont consommé différemment. Après, ont essayé, tant bien que mal, et je pense que ce soir, on aura l'exemple parfait de regarder un festival sur un écran. Mmh. Merci, Joanne. Et je sais que c'est pas toi, je sais. Oui, c'est très dur. Moi, je travaille avec des groupes de rock. Forcément, pour moi, c'est inenvisageable et j'ai hâte de me faire renverser une bière dans un public devant un groupe de rock, évidemment. Mais le fait est que priorité à la santé, etc. Et donc, on consomme différemment. Après, je ne crois pas trop au streaming vidéo, mais en tout cas, on va consommer différemment. Et les concerts hors des murs, c'est quelque chose que je trouvais remarquable. À Strasbourg, on a eu la chance d'avoir une salle qui a fait ça et ça a amené des super concerts en extérieur au milieu de tout type de quartier. Et c'était super, quoi. Voilà, donc oui, mais j'ai pas plus d'explications, désolé.
Non, pas de problème. Alex, vous vouliez aussi réagir peut-être sur cette question de ceux qui ont privilégié l'émergence sont ceux qui, en tout cas, s'en sortiront le moins mal.
Je sais pas, mais en tout cas, plutôt côté... côté disque, en fait, c'était assez bizarre parce qu'il y a une grande... les gros machins n'ont rien fait, justement parce qu'il n'y avait pas de tournée derrière. Donc, du coup, je l'ai vu, par exemple, sur un projet qui est sorti juste à la sortie du confinement, en fait, dans une fenêtre hip-hop français où il n'y a jamais de place, d'habitude, parce qu'il y a 40 000 sorties par semaine. Et en fait, là, bah, tout était beaucoup plus facile qu'à d'autres moments. Donc, voilà. Bon, c'était curieux. Après, la question, c'est qui va s'en sortir, quoi. Alors je pense qu'effectivement ceux qui étaient tout petits et qui faisaient déjà, par exemple sur la partie label, moi j'ai pas de, on en discutait tout à l'heure, en fait il n'y a pas de masse salariale et de frais fixes. Moi j'ai plutôt une structure très agile et à chaque projet on remonte une équipe, on embauche des gens, etc. Donc du coup, moi je morfle pas, grosso modo. Et je pense que c'est un peu pareil sur le spectacle, en fait ceux qui ont du mal, c'est pas les très gros, parce que déjà ils sauront faire les bons dossiers. Deux, ils ont des partenaires financiers, qui abonderont de toute façon, donc ils vont tenir le choc. Les toutes petites structures, ce que en Bretagne ils aiment bien appeler les développeurs d'artistes, genre une personne qui fait la diff, les sorties de disques, la promo, enfin bref, qui fait tout. En fait, comme c'est une économie qui est adossée moitié avec du chômage, moitié avec des demandes d'aide, moitié avec les recettes sur la tournée, les ventes de disques et machin, c'est chiant, mais les gens vont s'en sortir. Par contre, là où je m'inquiète vraiment, c'est tout le tissu des PME de la musique. Coucou. Donc les tourneurs, les tourneurs ou les producteurs où il y a 2-3 personnes et où du coup il y a des frais fixes, ils vont pas vous pouvoir, enfin à moins qu'ils licencient des gens, ce qui est très compliqué et très douloureux. Enfin voilà, donc là où l'attention doit vraiment se porter, à mon avis, c'est aussi sur ces acteurs intermédiaires. C'est pour ça que je dis que les choix qu'on va faire les uns envers les autres, est-ce que je travaille avec lui ou je travaille avec lui, ça peut signifier encore plus que jamais vie ou mort de certains.
Alors je ne sais pas si dans le public il y a des questions, des envies de réagir. J'ai pas reçu de message sur la page de fidélité, donc a priori, je pense qu'on va pouvoir clore cette table ronde. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Ah, il y a une question. Alors du coup, je vais être obligée de tourner mon micro, mais je vais remettre mon masque. Voilà, c'est ça aussi le Covid. Ouais.
Allô, bonjour. Donc, je suis Nicolas Bongrand, chargé d'accompagnement à Superformat. Je suis déjà super content de revoir les collègues après ce tunnel-là. Donc merci pour ce partage. Et par contre, j'ai un petit problème, peut-être que je suis susceptible, je ne sais pas. Mais monsieur Philly, j'ai du mal à voir autant de questions défilées qui sont un résumé des questions qu'on se pose depuis 10 ans sur l'action culturelle, sur les publics et tout. Et quand quelqu'un arrive avec une question sur « et pourquoi pas des quotas ?» sur les prods, je ne dis pas que je suis d'accord, mais et dire que c'est une question idiote, franchement, là, moi, je ne saisis pas. On ne peut pas... Si on se pose des questions, on se pose des questions, et on se pose toutes les questions. On ne peut pas dire à quelqu'un que c'est une question idiote de dire qu'il y aura un quota sur des pratiques amateurs. Ou des... Donc moi, là, je suis un peu sorti de mes gonds à ce moment-là, je voulais juste le partager et pas par SMS. C'est tout.
C'est toi, Nicolas, qui a dit ça.
Délateur.
Je m'excuse si ça a choqué. Je voulais pas choquer. Et je crois que toutes les questions sont bonnes à poser. Effectivement, là, absolument aucun souci. Je me suis sans doute, sans aucun doute, mal exprimé parce qu'effectivement, le mot quota me fait peur et j'ai dû balbutier et sans aucun doute prendre les termes qu'il fallait pas. Toutes les questions sont bonnes à poser, et quelle que soit la problématique, évidemment. Non, il n'y a pas de problème.
Tu veux lâcher son sac ou quelqu'un ne se sent pas bien ? C'est le moment, hein. Ah, cool. J'espère que chacun d'entre nous va se faire viser.
Ah non, c'est pas du tout. Non, mais moi, ce que j'ai eu du mal à comprendre, là, c'est cool, tout le monde, je sais pas comment dire. J'ai eu du mal à comprendre qu'on dise, en sortie de confinement, l'expérience concert, c'est boire des bières debout devant des gens. Ne faites plus rien, et on trouvera des solutions. Il y a eu un mot d'ordre, alors peut-être que je me trompe, hein, qui était un peu quand même dans cette idée-là, où, en gros, on ne pouvait plus que faire ça. Donc, impossibilité de faire des concerts assis, quoi. Je parle des lieux de notre réseau musique actuelle, salle SMAC et tout. Donc je pense qu'après, ça n'empêche pas qu'il y ait des initiatives qui ont lieu à droite à gauche. Mais donc voilà, là, à la rentrée, je vois des gens qui ont maintenu leur programmation. Le concert assis, c'est bon, on appelle tous les groupes, on en fait. Donc ça se débloque et c'est super. Et puis toutes les initiatives, concerts sur les toits, les murs. Mais je trouve que ça a pu, en tout cas sur notre territoire, phagocyter les choses. Parce qu'on attendait, donc on n'était que dans le report. On attendait de repouvoir faire quelque chose debout, comme d'habitude. Et là, on ne fait que de parler... de changer nos pratiques, de faire tout ça. Je trouve qu'on se la pète, mais un truc de fou dans les musiques actuelles, parfois, quoi. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'on est le réseau qui est en phase sur les choses, on flippe du live stream, et on était complètement réactionnaire à dire ce sera debout avec des bières, et c'est tout. Et avec cette position-là, on fera tout changer. Mais non, parce que tout le monde est perdu, il y a une crise sanitaire, même le gouvernement, il ne sait pas quoi faire, et qu'on prend le train en marche, et bien on s'adapte, on fait ce qu'on peut assis, on fait ce qu'on peut. Mais... Donc c'est cool que tout le monde s'y remette, je suis super content, allons-y, et... Mais voilà, moi j'étais vraiment frustré parce que je pense que si, en plus nous en faisant ça, ben, les petits festivals intermédiaires et tout, comment, ils pouvaient même pas s'accrocher à nous parce qu'on était en mode fermé. Quoi. On était en mode fermé, donc ils pouvaient même pas essayer de lutter pour faire quelque chose dans le milieu rural ou autre. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu et donc je suis venu là pour le partager. Voilà.
Non, mais c'est. Après, le constat est assez. Enfin, du regard extérieur et du coup, en tant que. Fédération et du coup d'avoir animé je sais pas combien de vignettes noires pendant 2 mois, ce qui était un petit peu compliqué à un moment donné. C'est vrai que moi j'ai observé plusieurs phases, hein, j'ai aucun jugement par rapport à ça, mais autant au début je pense qu'il y a une petite période d'incompréhension, voire un peu de panique, fallait reporter, donc les gens étaient dans l'action et du coup bon, ils se disaient, voilà, ils anticipaient pas à la suite, fallait agir sur le moment. Après, je pense qu'il y a eu, et c'est souvent le cas en cas de crise, hein, il y a différents, voilà, il y a différentes vagues, on va dire. Après, il y a eu un moment où tout le monde voulait réinventer le monde de demain, en se disant on va faire complètement différemment, plus jamais pareil, etc. Et ça sera bien parce que ça va amener de nouvelles questions, de l'eau, voilà. Donc là, on est dans une période de créativité excessive, on va dire, entre guillemets, pas excessive, de créativité. Et puis après, à un moment donné, tout le monde a dit « mais non, on ne va pas tergiverser, on ne refera jamais comme avant ». Puis après, moi, j'ai plutôt entendu un discours qui était « on va sauver ce qu'on peut sauver ». Et du coup, voilà, c'était avant l'été. Et là, du coup, je trouve, alors peut-être parce que je sors du congrès du SMA et que je trouvais beaucoup de choses quand même positives qui se sont dites à travers ça, parce que je trouve aussi positif le fait qu'on se revoie physiquement parlant et que j'ai l'impression que ça a quand même voilà, bon, c'est des, on s'adapte quoi, et en même temps ça fait du bien de se revoir encore une fois. Et du coup, à travers ça, j'ai senti un peu plus de positivisme, peut-être un équilibre qu'on va trouver à terme entre on va s'adapter. Par exemple, au congrès du SMA, il y avait des producteurs qui disaient que leurs artistes qui n'étaient pas du tout partis pour ça au départ commençaient à réfléchir à comment adapter, par exemple, leur spectacle sur effectivement de la jauge assise, etc. Donc finalement, sur des choses peut-être assez excessive dans les différentes périodes que j'ai citées. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, peut-être je me trompe, qu'on va peut-être arriver quand même à se poser les bonnes questions et qu'on va trouver une forme peut-être d'équilibre entre peut-être avoir envie de refaire, peut-être de s'adapter. Enfin voilà, donc j'aurais envie d'être un peu, en tout cas, optimiste pour la suite, au moins là-dessus. Et si on ne l'est pas, voilà, ça va être vraiment plombant, hein, par contre. Parce que déjà que c'est chaud dans les équipes et tout, là, ça va être vraiment la galère.
Est-ce que quelqu'un souhaite encore ajouter un mot là-dessus ? Non. Eh bien, merci, merci à tous pour votre présence et à tous intervenants d'avoir participé à cette table ronde. Merci.